Vous êtes sur RTL.
Du midi.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 7 mai. Non, ce n'est pas une archive d'ambiance dans un stade de foot. Ce sont bien les supporters de Lille qui encouragent leur équipe avant le magnifique derby nordiste du jour face à Lens en Ligue 1. Mais parce que ce n'est pas encore le monde d'après, le stade Bollaert sera vide ce soir. La France entière est en deuil. C'est avec ces mots que Jean Castex a rendu hommage à Éric Masson, ce policier tué à Avignon lors d'une intervention sur un point de deal avant-hier. Pas d'écriture inclusive à l'école, point à la ligne. Jean-Michel Blanquer vient de faire paraître une circulaire interdite disons cette écriture qui allie le masculin et le féminin avec un point médian. Dans RTL Midi aussi, un homme ligoté à une cible, attaqué par des avions de chasse, une scène absolument hallucinante sur la base aérienne de Solenzara en Corse. C'était un bizutage. Nordal Lelandais maintient sa version d'une bagarre qui a mal tourné. L'accusé est interrogé en ce moment sur le meurtre d'Arthur Noyer devant les assises de Savoie. La météo, bonjour Claire Delorme.
Bonjour Christelle.
Alors c'est l'automne, demain ce sera l'été et on cherche toujours le printemps.
Alors il est vrai qu'en ce moment la météo fait des siennes et joue un petit peu avec nos émotions. Hein, entre les températures de cet après-midi qui sont dignes d'un mois de mars, encore 13 degrés à Cherbourg, 14 degrés à Besançon, 16 degrés à Bordeaux, tout comme à Lyon. Et entre demain, en fait, le thermomètre qui va flamber et atteindre jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest, on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Donc en attendant, côté ciel, pour cet après-midi, il faudra encore composer avec beaucoup de nuages de l'arc atlantique aux Alpes en passant par le massif central. Mais rassurez-vous, de très belles éclaircies vont aussi pouvoir se développer pour les régions au nord de la Loire ainsi qu'en Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr, faut-il interdire l'écriture inclusive? Vous êtes 88% à nous dire oui, il n'y a que 6% de non. On attend vos arguments au 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle. Est-ce que cette écriture peut mettre en difficulté les élèves, les pénaliser? On va en parler dans quelques secondes. Le dessin animé Blanche-Neige et les sept nains fait polémique aux États-Unis. Selon les adeptes de la cancel culture, le baiser du prince, à la fin, serait un baiser non consenti et donc subi par Blanche-Neige endormie. Une nouvelle fois, est-ce que vous pensez qu'on va un peu loin parfois? Pour inciter à la vaccination, faut-il verser une allocation aux personnes vaccinées? C'est la suggestion de l'infectiologue Karine Lacombe. Et puis, que faites-vous au lit? En voilà une drôle comment de question. Qu'est-ce que vous faites au lit? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous dormez? Est-ce que vous vous rapprochez? Est-ce que vous regardez la télé? Figurez-vous que c'est l'endroit préféré d'un Français sur cinq, juste derrière le canapé et le jardin. Donc je vous poserai cette question qu'on peut poser un vendredi peut-être. Que faites-vous au lit?
Je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Hein.
Oui, parce que personnellement, je ne le sais pas.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Et pour commencer, un ch'ti derby qui déconfine les supporters. Ce soir, Lens reçoit Lille dans un stade Bollaert vide. Mais vu l'enjeu pour les 100 et or qui visent une place européenne et Lille qui se rêve en champion de France de football, c'est beaucoup plus qu'un derby. 2000 supporters ont assisté hier à l'entraînement de Lens. Et ce matin, plusieurs centaines de fans des Dogs ont accompagné le départ du bus du LOSC dans une ambiance de tribune, Franck Hanson.
Ah oui, il a fallu plusieurs minutes pour que le bus rouge se fraye un chemin au milieu de ses supporters lillois déchaînés avec leurs drapeaux et leurs fumigènes, comme pour montrer aux voisins lensois que le LOSC aussi a un public qui rêve, comme Valentin, d'être champion.
On dirait qu'on a déjà gagné la Coupe du Monde. C'est un truc de malade. C'est là où on voit les vrais supporters.
Les lensois disent que Lille, il n'y a pas de public, mais bon, quand on voit ça...
Qui viennent voir par eux-mêmes, on y croit fort. Là, si on veut gagner le titre, il faut gagner le derby. Ce serait beau, 10 ans après notre dernier titre.
Un petit moment de retrouvailles, faute de pouvoir vibrer au stade.
Ça fait du bien, ça nous manque.
Ça nous manquait. Ouais.
Vivons la saison prochaine, qu'on puisse y aller.
Il faut les supporter, hein. Ils méritent, hein. Ils méritent.
Et entre les deux camps du Nord et du Pas-de-Calais, on ne se fera pas de cadeaux ce soir.
C'est les Lensois, c'est nos ennemis de toujours. Ils visent aussi quelque chose, ils visent quand même l'Europe et nous, on vise le titre. Donc il n'y a pas de cadeau à faire, on y va, on gagne.
Donc ce soir, je pense que Lille répondra présent. La rivalité est là et elle le restera toujours.
À Lens, les joueurs du Racing doivent aussi s'attendre à un sacré comité d'accueil de leurs fans en sang et or avant d'arriver au stade.
cas, ils ont déjà tous bien chauffé leur voix. Merci Franck. Il s'appelait Éric Masson, cet homme de 36 ans est le deuxième policier tué en service depuis le début de l'année. Il a été tué à bout portant de 4 balles à Avignon alors qu'il intervenait sur un point de deal. Jean Castex, en visite au commissariat de Sarcelles, lui a rendu hommage ce matin.
La France entière est en deuil. Éric Masson avait 36 ans. Il avait une compagne, Émilie, et 2 enfants, Laura et Anaïs, âgés de 7 et 5 ans. Mes pensées les plus émues vont d'abord vers elle. Il était fils de policier. Sa sœur et son frère sont également policiers. Éric Masson était un policier exemplaire. Il était engagé dans la lutte contre toutes les formes de trafic, dont celui de stupéfiants. Cette lutte dérange assurément les trafiquants. Qu'ils sachent que nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre et à amplifier cette traque. Nous le devons à nos concitoyens. Nous le devons aussi désormais à Éric Masson.
Le Premier ministre avec Jacques Serret. Du côté de l'enquête, le tireur est toujours en fuite. Frédéric Perruche, vous êtes à Avignon pour RTL. Et là, la femme qui a acheté du cannabis au moment du drame est, elle, toujours en garde à vue.
Exactement. Son témoignage est évidemment capital pour identifier le tueur ou son complice. Connaît-elle leur nom ou surnom? Sont-ils des habitués de ce point de deal? Sans oublier, bien sûr, leur description physique. C'est la seule témoin du drame avec le collègue du brigadier abattu, Éric Masson. Mais ce sont des dizaines d'enquêteurs spécialisés venus en renfort de Marseille, de Nîmes et de Montpellier qui travaillent d'arrache-pied sur la vidéosurveillance de la ville pour tenter de retracer le parcours de fuite de l'homme à la sacoche en survêtement parti en trottinette. Trouver éventuellement un point de chute ou capturer une image exploitable qui pourrait fournir son identité aux policiers grâce à leur fichier si le tireur est connu de leur service, ce qui semble probable. Tout le voisinage de la scène de crime a également été entendu. Les experts de la scientifique travaillent sur la balistique, sur les douilles retrouvées. Le tout pourrait permettre des avancées rapides de l'enquête débutée il y a une quarantaine d'heures à peine.
Frédéric Perruche, un hommage sera rendu à Éric Masson dimanche à Avignon. Les syndicats de police appellent à une marche citoyenne le 19 mai à Paris. Jean Castex affirme qu'il les recevra en début de semaine prochaine et promet de dégager 10 millions d'euros pour améliorer la sécurité des commissariats après l'acte terroriste de Rambouillet. Il est sous le feu roulant des questions. C'est l'interrogatoire de Nordal Lelandais ce matin devant la cour d'assises de Savoie. Celui qui comparaît pour le meurtre du caporal Arthur Noyer maintient sa version d'une bagarre qui a mal tourné, ponctuée de longs silences, Anne Lehnaff.
Oui, debout, chemise blanche bien repassée, il a réponse à tout depuis 3 heures. Parfois sa voix faiblit, mais il ne flanche pas. Le président, 7 ou 8 personnes qui ont vu Arthur cette nuit-là disent qu'il voulait rentrer à sa caserne. Elle est où la caserne? À Saint-Barbie. Et vous l'emmenez où? À Saint-Baldoff. Pourquoi? Parce qu'il me le demande. C'est ma réponse, monsieur le président. Avant, vous traînez 2 heures dans Chambéry. Pourquoi? Je cherchais des copains. Vous vouliez un rapport sexuel? Pas du tout. Il n'y a jamais rien eu de sexuel avec monsieur Noyer. Le président, on a vu les vidéosurveillances hier. Arthur avait beaucoup bu. Était-il en état de vous donner des coups de poing? Silence. Non, pas à ce moment-là. Et après, à 3h07, silence encore. Oui, souffle le Landais, presque dans un murmure. Il est mort à Saint-Baldoff? Oui. Vous coupez vos portables? Oui, pour qu'on ne m'appelle pas, qu'on ne sache pas que je suis là. J'ai jamais cherché à tuer Arthur, persiste le Landais. S'il a d'abord nié, puis donné des versions différentes avant d'avouer, c'est parce que c'était compliqué. Compliqué, à ce moment-là, dit-il, de dire que j'avais tué un homme. J'ai mis du temps à venir à la vérité. Le clan Noyer, qui ne croit pas du tout à cette thèse d'une bagarre qui aurait mal tourné, écoute, impassible. La famille, les amis d'Arthur portent tous un masque vert. C'était la couleur préférée du caporal.
Récit d'audience, Anne Lehnaff, en direct du palais de justice de Chambéry. Une pause et dans un instant, un bizutage hallucinant.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Une scène digne d'une exécution d'otage. Imaginez un homme cagoulé, ligoté, attaché à une cible géante en forme d'hélice, tandis que des avions de chasse lui tirent dessus. Eh bien, c'est le calvaire qu'a vécu un jeune pilote de chasse sur la base aérienne de Solenzara en Corse. Brice Dugénie, c'était un bizutage.
Oui, à peine arrivé sur cette base pour un entraînement, le pilote est ligoté, cagoulé, mis à l'arrière d'un pick-up et conduit tel un otage à travers les chemins corses jusqu'à ce champ de tir. Le champ de tir de Diane, alors c'est un immense terrain qui est en bord de mer, au-dessus duquel s'entraînent les avions et les hélicoptères militaire de l'armée de l'air française, souvent d'ailleurs sur de vieilles carcasses de chars ou sur des cibles. Il est donc débarqué, attaché à cette cible, c'est une immense croix rouge, et des avions de combat se mettent à tirer autour de lui, voire même à faire semblant de lui tirer dessus. Un bizutage hallucinant que condamne le porte-parole de l'armée de l'air, le colonel Spee.
Dès que nous avons eu connaissance de ces faits, d'une mise en scène de très mauvais goût qui est absolument intolérable, nous avons diligenté une enquête de commandement pour établir les faits. Les officiers responsables ont été très sévèrement punis. On parle de jours d'arrêt, une chose qui, dans le cas d'un officier supérieur, laisse des traces. Par contre, il a été également établi qu'il n'y avait pas eu de mise en danger à proprement parler. Il était à grande distance de l'effet des armes, en l'occurrence.
Le pilote, lui, a quand même décidé de porter plainte pour mise en danger de sa vie. Certains pilotes de chasse expérimentés que j'ai réussi à joindre ce matin reconnaissent que de petits bizutages existent de temps en temps dans les escadrons, mais jamais ils n'avaient ni vu ni entendu parler de choses aussi dangereuses.
C'est terrifiant. Merci Brice. Venons-en maintenant à la question du jour que l'on vous pose sur RTL.fr. Faut-il interdire l'écriture inclusive ? Elle l'est, en tout cas dans l'éducation nationale. Une circulaire de Jean-Michel Blanquer adressée au recteur Rector.ris a été publié hier, expliquant que la complexité de cette écriture qui allie masculin et féminin est un obstacle à l'acquisition de la langue comme de la lecture. Et c'est un sujet sur lequel vous voulez entendre les auditeurs au 3210 Pascal Pro.
Disons-le, l'écriture inclusive est illisible. Elle déroute les enfants, elle déconcerte les dyslexiques et elle complexifie le langage. C'est un frein à la compréhension. C'est aussi un danger mortel pour la langue française, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Académie française. Elle relève d'une prétention inouïe. Modifier la langue de Molière et de Racine au nom de l'idéologie et du combat pour l'égalité homme-femme. Comme si l'écriture inclusive était une arme pour lutter contre ces inégalités. Soyons sérieux, c'est un charabia dénoncé à juste titre par les plus grandes voix littéraires du pays, interdit désormais par le ministre de l'Éducation. J'ai envie de dire, il était temps. Stop à la soumission aux minorités actives.
Eh ben, on va entendre un autre point de vue avec notre invité qui est en face de vous, Céline Pic, porte-parole d'Oser le féminisme.
Alors, bonjour.
Eh ben, vous, allez-y, vous pouvez répondre à Pascal.
Je suis ravie de faire partie d'une minorité active qui représente quand même 52% de la population, puisqu'il y a 52% de femmes en France. Alors, moi, j'ai lu...
C'est pas exactement ce que j'ai dit, si vous me permettez. Je pense pas que toutes les femmes... Hélène Carrère-Danco, c'est une femme.
Oui,
c'est la secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Mmh. Elle dit que c'est un danger mortel. Donc déjà, là où vous mettez le débat, c'est ça qui est intolérable lorsqu'on parle avec vous. C'est que vous vous représentez comme 52% des femmes. Non, vous représentez une minorité active et vous ne représentez pas les femmes. Mais c'est à
Merci
vous
beaucoup.
Merci.
C'est à
Alors,
vous, Céline Pic.
Je pense qu'on va d'ailleurs avoir un certain nombre de points de laissez-moi juste parler, peut-être, etc. Je suis à moi très étonnée par les titres qui ont dit interdiction d'écriture inclusive. Parce que moi, j'ai lu la circulaire qui a été envoyée aux recteurs et aux rectrices. Et effectivement, ce n'est pas une interdiction de l'écriture inclusive. Et j'y ai trouvé même, il y a une interdiction du point médian. Sauf que, quand on relie un petit peu ce que c'est que l'écriture inclusive et ce que c'est qu'une écriture sans stéréotype de sexe, comme le prévoit en particulier le HCE, le Haut Conseil à l'égalité, qui est rattaché à Matignon, on ne parle pas d'une minorité active, là on parle de l'organe de gouvernement qui promeut une écriture sans stéréotype de sexe, et ben j'ai été plutôt assez favorablement surprise en lisant cette directive, parce que Blanquer effectivement préconise l'interdiction du point médian.
Ah bah oui, mais c'est c'est déjà énorme.
À côté de ça, il prévoit des règles de féminisation des titres et des fonctions, ce à quoi l'Académie française s'est opposée depuis des décennies. Et il prévoit également de lutter contre les stéréotypes sexistes dans les enseignements et dans les manuels scolaires. Et là, je ne peux que applaudir.
On est bien d'accord que le bon sens...
Il prévoit même, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, un doublement des formulations. Donc, il donne un exemple très simple. Il dit, il ne faut plus dire, par exemple, le candidat, mais le candidat et la candidate quand on...
On va pas dire le candidat point ES.
Et donc, l'écriture inclusive, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas nécessairement favorable au moment de l'apprentissage de la lecture en CP à l'utilisation du point médian, mais par contre, de revoir l'intégralité des manuels scolaires pour dire les Français et les Françaises, et je vous rappelle que un des premiers défenseurs de l'écriture inclusive, c'est par exemple le général de Gaulle, qui commençait tous ses discours par français, française. C'est de l'écriture inclusive, c'est de la langue inclusive.
Donc on est d'accord.
Par rapport à dire français, il y a encore aujourd'hui beaucoup d'hommes politiques qui commencent leurs discours en s'adressant aux Français. Ça, c'est sexiste. Et donc, je trouve que il ne faut pas simplifier le débat. Il ne faut pas.
Non, mais dans le débat, il y a deux choses, comme vous le dites. Il y a la féminisation des noms que reconnaît Jean-Michel Blanquer,
et ça,
ça va, ça va dans le bon sens. Et ça existe même... depuis une quarantaine d'années. Il y a un travail qui est fait peu à peu. Maintenant, on s'habitue à dire écrivaine, etc. Si, on y vient quand même.
Pas dans les manuels scolaires et pas dans l'éducation nationale. Et par contre, moi, je suis étonnée.
Mais sur le point médian, vous êtes d'accord pour dire que c'est illisible et que ça complexifie pour les élèves.
Je suis vraiment étonnée de la tournure que prend le débat, parce que j'ai cherché un peu autour de moi, alors que je suis dans des milieux féministes quand même assez à la pointe de l'écriture inclusive. Je n'ai pas, enfin, on n'est pas en capacité de mesurer le nombre d'enseignants et d'enseignantes qui utilisent le point médian. Le point médian n'est pas utilisé aujourd'hui dans nos écoles, et je vous mets au défi de trouver le moindre chiffre là-dessus. Par contre, des chiffres sur le sexisme des manuels scolaires, sur le fait que, avant de venir, j'ai ouvert le bouquin d'histoire de mon fils, et c'était marqué les Français ont voté, les citoyens, les ouvriers, les paysans, les aristocrates, les Romains, les Grecs. Et là, il n'y a pas le doublement. Nous, ce que nous voudrions, ce serait que, par exemple, que dans l'ensemble, dans l'intégralité des manuels scolaires, c'est les Français et les Françaises ont voté aux dernières élections pour un nouveau président. Et ça, ce serait intelligent. Et l'écriture inclusive, ça comprend tout ça. C'est-à-dire de faire en sorte que les femmes soient représentées. Et par contre, arrêtons de nous arc-bouter sur ce point médian qui est simplement pour les adultes, une capacité, effectivement, quand on écrit un mail, de raccourcir plutôt que faire une double formulation.
Sauf que l'université, il est généralisé, sauf que la mairie de Paris ne communique aujourd'hui qu'en écriture inclusive, etc.
Il y a une proposition de loi visant à l'interdire dans l'administration.
Mais en revanche, je dois partir parce que je vais préparer les auditeurs, auditrices, pour la parole.
Merci beaucoup.
À tout à l'heure.
Le débat est bien ouvert, en tout cas. Merci Céline Pic d'être venue dans ce studio. On fait une pause dans un instant. On part en Corse où on vaccine déjà toutes les personnes sans limite d'âge.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
L'épidémie recule un peu plus chaque jour, même si le niveau reste haut. 5231 patients en réanimation dans notre pays. C'est tout de même 600 de moins en une semaine. Et la vaccination accélère puisque tout le monde pourra se faire piquer lorsqu'il restera des doses. C'est déjà le cas à Bastia, en Corse. Reportage Julien Fautra.
Je vais vous poser quelques petites questions.
D'accord.
Votre âge ?
30 ans.
Je vais vous faire votre injection au bras gauche, ça vous va ?
Tous les âges dans la file d'attente, c'est au tour de Morgane.
Vous laissez pendre votre bras.
Frédéric Raffaelli, infirmier.
Ça va, je vous ai pas fait mal.
Ben non, parfait.
Donc on va vous garder un quart d'heure en surveillance.
Précaution obligatoire, mais le jeune homme n'a aucun souci de santé, une forme olympique.
Jouer au foot, on ne peut plus jouer au foot, les grands-parents, on ne peut plus les voir.
Priorité aux personnes qui ont des comorbidités, mais la région a beaucoup de doses en stock, presque 1000 injections par jour dans ce centre.
On ne laissera jamais une dose sans personne pour la recevoir, donc oui, à partir des 18 ans, on a de fortes demandes.
Vous avez un peu fait un petit peu la fête ou rencontré du monde ?
Bien sûr, là le temps il commence à être long. Et puis on a envie de vivre, quoi. À nos âges, il faut aller de l'avant, quoi.
Un choix politique de vacciner tout le monde, le docteur Laura Orsini-Soli, adjointe au maire en charge de la santé.
Quand on a restreint les créneaux de vaccination, nous avions qu'une trentaine de demandes. Donc pour ne pas jeter des doses, comme ça a pu être le cas parfois, nous avons décidé d'ouvrir donc cette campagne de vaccination au grand public.
La Corse, l'une des régions qui a vacciné le plus d'habitants en proportion, car c'est aussi un enjeu économique, puisque l'île prépare une saison estivale, un grand brassage de personnes, et ne peut se permettre d'être à l'arrêt.
Julien Fautra, et on rappelle que les plus de 50 ans pourront se faire vacciner dès lundi. C'est le feuilleton politique de la semaine, avec chaque jour ses rebondissements, ses démissions et ses petites haines. Qui sera candidat aux élections régionales en PACA ? Sophie Cluzel, la secrétaire d'État, devait figurer sur la liste du Républicain Renaud Muselier. Après sa volte-face, elle annonce finalement qu'elle portera les couleurs de la majorité présidentielle. On a quand même un peu de mal à suivre William Galibert.
Mais c'est normal, parce que c'est très difficile à suivre. Pour faire une bonne bouillabaisse, chantait Fernandel, il faut se lever de bon matin. Ce matin, c'est donc Sophie Cluzel de La République En Marche qui s'est mise en cuisine. Que dit-elle maintenant ? Elle dit « Je suis candidate et la majorité sera représentée au premier tour ». Ah bon ? Donc c'est clair, ça veut dire que l'alliance avec Renaud Muselier est enterrée et qu'une liste LREM sera déposée. Ben non, c'est pas aussi clair que ça. J'ai posé la question ce matin à plusieurs cadres de la majorité. Ça veut dire que vous allez déposer cette liste ? Réponse : non. Ça veut dire qu'on est en train de constituer la liste. La constituer, mais pas forcément la déposer, pas encore. On espère tout simplement faire bouger les choses à nouveau, notamment auprès de Renaud Muselier. Mais selon nos informations, les contacts sont rompus ces dernières heures entre Renaud Muselier et la Macronie. Et le chrono tourne. La limite pour le dépôt des listes, c'est vendredi prochain. Et c'est seulement là qu'on aura une réponse claire et définitive.
Merci quand même d'avoir essayé, William.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et c'est un coup de cœur qui concerne toute la France. Depuis des mois, à cause de la pandémie, la plupart des compétitions sportives sont annulées, y compris pour la pétanque. Alors un petit groupe de passionnés a décidé d'organiser quand même une compétition sur Facebook demain. Rendez-vous sur le compte Club Maboule, Valentin Boisset.
Oui, et pas de cochonner, car c'est précisément un concours de tir de précision qui va se dérouler.
Ce n'est pas pointé, là, c'est uniquement tirer sur les boules, ce qui est le côté le plus spectaculaire de la pétanque.
Voilà. Ce bruit, de nombreux joueurs de pétanque ne l'ont pas entendu depuis des mois, alors pas question de se réunir. Contexte sanitaire oblige, chacun va se connecter sur un live Facebook. Éric Pernon est l'organisateur.
Chaque grand champion et championne va tirer sur un terrain toute seule. Elle va simplement se faire filmer par un ami. Sa performance de tir de précision va être diffusée en direct sur Facebook, qui s'appelle Club Maboule, gratuitement ouvert à tous.
Le bouchon qui est sorti du cadre.
Comme dans une vraie compétition, donc chacun sera en doublette.
C'est-à-dire qu'on va additionner leurs deux scores et du coup ils auront un score d'équipe confronté aux 6 autres équipes.
Au total, 7 équipes et 14 joueurs avec du beau monde.
Il y a les meilleurs tireurs du monde. Je vous donne un exemple, il y a Philippe Quintet, son surnom c'est le roi Quintet, 4 fois consécutivement champion du monde de tir de précision.
Mais aussi Dylan Rocher, le champion du monde en titre. L'objectif de ces passionnés, évidemment, c'est de faire vivre la discipline dont les principales compétitions ont été annulées ces derniers mois.
Reportage Valentin Boisset. Vous pointez ou vous tirez? Vous jouez à la pétanque, Pascal?
Oui, bah, tout le monde joue à la pétanque l'été.
Ah oui.
Bah, oui, c'est vraiment, c'est formidable.
Avec
d'ailleurs.
Plus ou moins de bonheur, on n'est pas tous très doués. Hein.
Oui, mais c'est plus facile de pointer, quoi qu'il arrive. Parce que là, pour faire les carreaux, comme on dit, il faut être. C'est plus compliqué quand même.
Moi, je suis plutôt Fanny en général. Vous voyez,
oui, bien sûr, bien sûr. Mais on pourrait peut-être aller jouer après l'émission, si vous le souhaitez. On a envie, on a envie de légèreté, et c'est pas le moment parce que l'actualité est lourde, elle est dramatique. Donc, j'ai une petite question pour vous, peut-être qui va nous faire sourire parce que c'est vendredi. Que faites-vous au lit? Voilà, c'est une drôle de question, je suis d'accord avec vous. Mais figurez-vous que c'est l'endroit préféré des Français. Un Français sur 5, juste derrière le canapé et le jardin. Alors, est-ce que vous dormez? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous mangez? Est-ce que vous faites pas grand-chose, finalement? Il y a des gens qui sont très peu dans leur lit, mais il y en a qui travaillent dans leur... Proust écrivait dans son lit. On va le recevoir, d'ailleurs, je crois, la semaine prochaine. Et donc, ça va être intéressant. Oui, non,
c'était bon.
Merde.
Ça aurait pu être Gaspard Proust, hein. C'est pas le même genre de beauté, bon. Mais c'était possible.
Et puis parfois, tout le monde passe dans le lit, les enfants viennent le matin, etc. Donc qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on chamaille? Que sais-je? Bon, la question du jour, faut-il interdire l'écriture inclusive?
Je crois qu'on a bien lancé le débat tout à l'heure.
Bon, voilà. D'accord.
Non, mais c'était
c'est
pas
fini.
Pour vous.
Non, vous voulez que je reparle ou non? Vous me dites. Hein. Et puis il y a cette question très étrange. Faut-il pour inciter les gens à la vaccination, faut-il verser une allocation aux personnes vaccinées? C'est la suggestion de l'infectiologue Karine Lacombe. Je ne sais pas qui va payer, elle peut-être. Mais en tout cas, voilà les questions du jour.
Allez, ça commence dans 4 minutes. La météo, Claire Delorme, le mercure du thermomètre est toujours aussi paresseux.
Ouais, disons que pour cet après-midi, c'est encore du mal à décoller, mais ça ne sera pas forcément le cas pour ce week-end, puisqu'on attendra des pointes à plus de 30 degrés par endroit dans le sud-ouest. En attendant, pour le moment, il faudra composer avec 15 degrés à Dijon, tout comme à Lille, 16 degrés à Paris, à Nevers, 19 degrés du côté d'Agen, et surtout avec beaucoup de nuages qui vont encore circuler de l'arc atlantique en direction des Alpes, en passant par le massif central. Avec en prime quelques gouttes en fin de soirée, hein, surtout vers les côtes bretonnes et vendéennes. Un risque d'avalanche, donc soyez très vigilants en montagne car le manteau neigeux est très instable après les chutes de neige qui sont tombées dans la matinée. Et puis surtout, les éclaircies, on les trouvera pour les régions nord de la Loire, mais aussi en Méditerranée avec ce vent sensible, quand même 90 km/h vers le Cap Corse.
Et ce week-end, c'est l'été.
Ce week-end, c'est l'été, donc une très belle journée pour samedi. Mais dimanche, par contre, une dégradation orageuse va se mettre en place, donc avec des orages au programme qui vont progressivement gagner le sud-ouest et remonter en fin de soirée le bassin parisien.
Donc ça va durer 48 heures maximum.
Non, parce qu'en fait les orages vont aussi perdurer un petit peu dans la journée de lundi, mais ça concernera l'est. Voilà, donc ça sera lourd et humide.
Merci, voilà en résumé.
C'est l'été.
Un drôle d'été.
Un drôle d'été.
Merci Claire. On fait une petite pause, il va être 13h, le rappel des titres, et puis ce sera à vous, vous pourrez dialoguer avec Pascal.
RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Faut-il interdire l'écriture inclusive? C'est la question du jour. Bonjour Nicolas.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Oui ou non?
Je vous en prie. Bah écoutez, non. J'étais partagé, mais le non l'emportera.
Ah, bah écoutez, vous allez nous dire pourquoi. Le rappel des titres avec Christelle.
La vaccination pour tous, quel que soit l'âge, quand il y a des doses, ce sera à partir de mercredi prochain. Pour vous aider à prendre rendez-vous, le moteur de recherche Vite ma dose vous proposera une rubrique chronodose qui vous donnera les disponibilités dans les 24 heures. La France entière est en deuil. C'est avec ces mots que Jean Castex a rendu hommage à Éric Masson, ce policier tué à Avignon lors d'une intervention sur un point de deal avant-hier. L'acheteuse de cannabis qui avait été arrêtée après le drame est toujours en garde à vue. Les syndicats de police appellent à une marche citoyenne le 19 mai à Paris. Sophie Cluzel sera finalement candidate LREM en région PACA. La secrétaire d'État y va après le pataquès de la liste Muselier. Renaud Muselier des Républicains avait finalement retoqué les marcheurs de sa liste. L'économie repart doucement. L'emploi salarié a progressé de 0,3% dans le privé au premier trimestre d'après l'INSEE, ce qui représente 57 300 créations nettes d'emplois. Les auditeurs.